Bonjour à tous. Ça va, tout le monde m'entend? Ok. Alors, ce matin, je veux commencer cette prédication en ouvrant la Bible en deux endroits, mais nous étudierons trois textes en tout. Le prochain viendra plus tard. Mais rassurez-vous, ma prédication sera longue, mais pas trop. Tout d'abord, en Luc 6, les versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? C'est Jésus qui parle. Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler, parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée, et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Voici la description faite par Jésus de deux hommes qui écoutent ces paroles, deux hommes qui pourraient se dire chrétiens parce qu'ils connaissent quelque peu la parole, mais deux hommes qui, face au déluge, aux tempêtes, ne disposeront pas des mêmes ressources pour y faire face. Notre prochain texte se trouve dans la lettre de Jacques, au premier chapitre, les versets 22 à 27. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, il parle de la parole. Traduisez-la en acte, sans quoi vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie qui il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Jusqu'ici, notre lecture. Ici aussi, deux personnes aux attitudes opposées, sensiblement pareilles à celles que décrit Jésus. Ces deux textes semblent porter un même message, mais ils le font en utilisant des enseignements et des images différentes. L'enseignement de Jésus, comme celui de Jacques, est clair. Si nous nous disons transformés par lui, si nous nous disons chrétiens, alors il faut que notre vie soit conforme à ce que nous disons être. Ce qu'on peut déjà relever ici très rapidement, c'est que nos textes parlent de quelqu'un qui a écouté les paroles de Jésus ou la parole. Il n'est pas question de personnes ignorantes de ce qu'est la foi ou qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il semble plutôt être question de personnes ayant entendu le message de la grâce, l'ayant peut-être même accepté. Il n'est pas question de ça dans le texte, mais on peut penser, puisque Jésus parle de personnes qu'il appelle Seigneur, et Jacques parle de personnes qui écoutent la parole, donc qui sont actifs, un minimum, au moins attentifs. Ce sont des textes qui peuvent donc nous être adressés aujourd'hui encore. Et si nous conservons ces deux textes en parallèle, il est donc question de personnes qui pourraient se dire croyantes, mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'elles entendent. Mon propos de ce matin n'est pas forcément de revenir sur ces textes bien connus. Nous savons que nous devons mieux faire quant à la gestion de notre vie, selon les principes bibliques, que nous devons mettre en pratique ce qui est écrit et commandé, si je reprends les mots de Jésus lui-même. Je ne veux pas revenir rappeler ces apports, mais peut-être plutôt nous aider à y voir plus clair quant à ce qui peut nous freiner ou nous aider à devenir ce que nous voulons. Mais première question, quelle personne désirez-vous être? Est-ce que vous vous l'êtes déjà posé cette question? Quelle personne voulez-vous devenir? Qu'avez-vous comme objectif personnel? Je crois que la plupart d'entre nous sommes tombés ou tombons encore parfois à côté par rapport à celui que nous souhaitons devenir ou être. Parfois, il peut arriver que nous soyons déçus par rapport à l'endroit où nous sommes et l'endroit où nous aimerions être. Qui voulez-vous devenir? Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord voir ensemble ce que Dieu demande, en quelques points, puisque ça semble être la base, si on veut savoir de quoi nous parlons. Alors, ce que demande Dieu. Si on lit ce passage du livre de Michée, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » On t'a fait connaître ce qui est bien. Qui est ce on ? Dieu ? En fait, ce n'est même pas forcément Dieu qui nous l'a fait connaître, puisque c'est Satan qui a présenté à Adam et Ève le fruit de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas ? Nous y reviendrons un peu plus tard, puisque ce sera notre troisième texte, mais quoi qu'il en soit, ce texte nous dit que nous savons ce qui est bien. Tout est dans la Bible. Que nous demande Dieu ? Pratiquer la justice, nous engager pour ce qui est juste, préférer la vérité aux intérêts personnels, aimer la miséricorde, la bienveillance. Dans chaque situation, nous sommes appelés à rester aimables et bons. Et marcher avec lui, lui faire confiance, rester en sa compagnie, se nourrir de ses paroles, suivre ses voies. Voici ce que Dieu nous demande. Et pour changer aujourd'hui, je vous propose de commencer par ce que disent les textes de l'homme ou de la femme qui vient à Dieu, qui l'écoute et qui fait ce qu'il dit, qui y demeure attaché. L'homme ou la femme que tout le monde veut être, n'est-ce pas ? Cette personne est comparée à quelqu'un de construit, de stable. Il a creusé, il est allé profondément et a assis ses fondations sur le roc. Ici, Jésus décrit un cheminement personnel, un questionnement profond qui éprouve les dogmes et principes établis par une éducation, une culture ou peut-être des préjugés, simplement. Et je pense qu'il est sain de remettre en question nos croyances de temps en temps, prendre le risque de creuser profondément les vérités auxquelles nous croyons. J'ai une amie qui fait ça régulièrement, ça remet en question sa foi parfois. Elle écoute ce qui se dit à côté, doute, mais quel plaisir quand elle ressort de son cheminement avec encore plus d'assurance. Il arrive que je puisse aussi avoir du mal avec les conversions instantanées ou les personnes qui suivent un mouvement de foule. Une église trop grande peut parfois avoir ce genre de problème, une petite aussi, ce ne sont pas les seuls. Mais dans l'émotion, parfois, on peut adhérer à un groupe sans forcément en sonder les fondations, en éprouver les piliers. Lors des sermons de Billy Graham, toute une équipe était derrière pour prier avec les nouveaux convertis et fortifier leur foi. Ils n'étaient pas dans l'effervescence du mouvement et ensuite, le lendemain, que faire ? Il est nécessaire pour chacun, donc, de creuser pour aller trouver ses propres fondations dans une relation personnelle, intime et raisonnée, éprouvée. Et là, quel bonheur ! Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait, nous dit Jacques. Comment douter de cela ? Et si on remplace cet homme par celui qui fait ce que Dieu demande, ça nous donne celui qui fait ce que Dieu demande sera heureux dans tout ce qu'il fait, n'est-ce pas ? Dans ce que Jésus dit, faire ce que Dieu demande contribue à renforcer de plus nos convictions, notre assurance, à creuser jusqu'à établir notre vie sur du dur. Ce n'est donc pas qu'en étudiant ou en lisant notre Bible que nous creusons nos connaissances et développons notre foi. C'est aussi en faisant ce que Jésus commande. Cela renforce nos convictions. Cela les approfondit. Imaginez si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui demandait. Est-ce qu'il aurait vu un bâton se changer en serpent ? Est-ce qu'il aurait vu la mer s'ouvrir devant tout un peuple ? Il a dû faire ce que Dieu lui demandait. Nous pouvons traverser des épreuves de toutes sortes au cours de notre vie. Certains ont connu la guerre, la famine, une crise financière, des divorces. D'autres ont été privés d'un membre, ont peut-être subi des agressions de tout type, ont vu des proches changer de personnalité, décliner doucement ou brutalement vers la mort. Parfois, des vagues sont si fortes qu'elles nous font mal, qu'elles déchirent notre peau, qu'elles emportent tout sur leur passage. Et peut-être que les anciens de notre assemblée peuvent certainement vous parler de leurs combats, des combats qu'ils ont dû mener des luttes et des vagues qu'ils ont supportées. Ils auraient pu abandonner de nombreuses fois, et pourtant, ils sont toujours présents, vous êtes toujours présents, et votre foi est forte. Parfois, l'eau peut nous submerger, déborder, nous avons l'impression de couler. Mais combien de miracles se produisent au moment où nous sommes au plus fort de la tempête ? Ésaïe 40, au verset 31, nous dit « Ceux qui comptent sur l'Éternel voient leur force qui se renouvelle. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Parlons maintenant de celui ou celle qui construit sa maison sur du sable, de celui qui oublie son vrai visage après s'être regardé dans le miroir. Bref, de celui qui écoute les paroles de Jésus, qui lui dit peut-être même « Seigneur, Seigneur », mais qui ne fait pas ce que Jésus lui commande. Les deux images de la personne qui construit sa maison sur du sable et celle qui oublie son vrai visage sont encore plus parlantes, mises côte à côte. Elles peuvent même s'éclairer mutuellement. D'un côté, nous avons le fait d'avoir une maison peu solide, puisqu'elle ne repose pas sur de solides fondations. Et de l'autre, le fait de se voir dans le miroir, de découvrir son vrai visage et de l'oublier dès qu'on s'en détourne. En effet, construire sa relation, mener des projets, construire une carrière, construire une maison, un mariage, sur quelque chose d'inconsistant, comme du sable, est-ce que ce n'est pas fou ? Qu'est-ce qui pourrait bien nous pousser à faire cela ? Des carences affectives ? Une manipulation ? Des réseaux sociaux ? Des tentations ? Nos propres désirs ? Peut-être effectivement que nous pouvons avoir un terrain dû à nos expériences passées. Peut-être que ce qui est mis sous nos yeux, encore plus peut-être maintenant via Internet, accroît les tentations. La Bible nous apprend autre chose, et c'est sur ça que je veux insister ce matin. Les deux profils décrits dans le livre de Jacques montrent que l'auteur veut insister sur un mot, l'oubli. Il n'aurait pas été forcément obligé d'en parler pour l'homme qui fait ce que Dieu dit, mais il insiste quand même là-dessus. Celui qui fait ce que Dieu dit n'oublie pas son vrai visage. Celui qui ne fait pas ce que Dieu dit l'oublie. Donc selon ce texte, si on ne fait pas ce que Dieu dit, c'est peut-être que nous aurions oublié ce que la Bible dit. Et l'oubli de ce que la Bible dit peut être grave, n'est-ce pas ? Si c'est ça qui nous empêche d'agir, alors vite, rappelons-nous et creusons. Vous connaissez peut-être l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». C'est une expression très connue. Eh bien, figurez-vous que dans la Bible, beaucoup de récits vont dans ce sens. Dès le début de l'histoire, l'homme détourne les yeux de Dieu et l'oublie. Et c'est comme ça souvent dans le récit biblique. Combien d'histoires bibliques racontent comment un homme ou une femme ou tout un peuple se sont détournés et puis ont oublié Dieu ? En Deutéronome, chapitre 32, verset 8, Dieu fait ce reproche au peuple d'Israël. « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Détourner le regard peut donc constituer un grand risque pour la suite. Cela peut nous amener à oublier petit à petit qui il est, mais aussi qui nous sommes, et à nous comporter comme des ennemis au lieu de fils que nous sommes. Et nous allons donc nous arrêter quelques instants là-dessus avant de terminer. Alors, il reste quand même au moins 10 minutes, mais c'est une grande partie de ce que je voulais vous apporter ce matin. Qu'est-ce qui détourne nos regards aujourd'hui ? Qu'est-ce qui occupe tes pensées ? Alors aujourd'hui, vous allez me dire, c'est facile, 17h, la finale. Peut-être qu'il y en a qui y pensent depuis ce matin, depuis hier, qui croisent les doigts, qui prient. Certains ont peut-être les yeux tournés vers le Tour de France, d'autres encore vers leur série préférée, qu'ils ont lâchée hier et qui est encore dans leur esprit ce matin. D'autres peut-être vers les réseaux sociaux, la vie de leur star, ou peut-être même tournés vers eux-mêmes, à se regarder le nombril, les bras, une ride, que sais-je. Moins drôle peut-être, est-ce peut-être un décès qui occupe vos pensées ? Une maladie, une séparation ? Nous pouvons aussi parfois être détournés par ça. Les guerres, la faim dans le monde, même si ce sont des motivations louables aux yeux de Dieu, peuvent nous faire détourner les yeux de Dieu. Nous pouvons faire du bien tout en n'ayant pas Dieu en priorité. Alors, je ne dis pas que lorsque nos yeux sont détournés de Dieu, c'est forcément mauvais, mais si cela dure trop longtemps, occupe toute la place, occulte Dieu. Occulter Dieu, vous voyez vous-même qu'il y a un souci. Savez-vous qui peut être à la manœuvre derrière ces événements? Alors, je vous en parle quasiment à toutes mes prédications, mais c'est très important. Et c'est pour nous éclairer sur ce point que nous allons aborder notre troisième texte, le texte qui raconte la chute ou le moment juste avant la tentation d'Adam et Ève. Celui qui a détourné le regard d'Ève et d'Adam, c'est Satan, n'est-ce pas? Il l'a fait avec du beau, nous allons le voir, mais il a essayé de le faire avec de la souffrance chez Job. Adeline nous en a parlé il n'y a pas longtemps. Satan, le séparateur, le tentateur, ce qui nous sépare de Dieu. Alors comment s'y prend-il? Nous allons voir dans le récit suivant des techniques qui, semblerait-il, ont de fortes chances de fonctionner si nous n'y sommes pas préparés, si nous n'en avons pas conscience. Genèse 3, les versets 1 à 6, ce texte nous raconte que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Alors, le serpent, dans la culture ancienne, ça représentait tout ce qui était le chaos, le néant. Okay, c'est pour ça qu'on l'attribue des fois, souvent, à Satan. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Alors la femme vit que l'arbre était porteur de fruits, qui semblait bon à manger, agréable à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Première chose, quel beau fruit! Tellement beau qu'il en a fait oublier les conséquences à ceux qui le regardaient, n'est-ce pas? Alors, on ne sait pas si ce fruit, qu'on pense être une pomme, ou en tout cas dans la culture populaire, on ne sait pas si ce fruit était beau, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle est représentée dans notre inconscient collectif. Et nous sommes tous attirés par ce qui est beau, n'est-ce pas? Ce qui, pour nous, en tout cas, est beau. L'Ecclésiaste nous dit que l'œil n'est jamais rassasié de voir et que l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. On peut trouver ça dans Ecclésiaste 1, le verset 8. Est-ce que ce n'est pas d'actualité? Vous savez, Satan nous connaît extrêmement bien. Et c'est pourquoi sa seconde technique ne devrait pas nous étonner. Plutôt frontale, on se dit qu'on le voit venir, mais on est quand même pris au piège. Sa deuxième technique, c'est présenter quelque chose d'interdit. Ça pourrait paraître bizarre, mais Satan demande à Ève si tous les fruits sont interdits pour qu'Ève se rende compte de ce qu'elle a, mais surtout de ce qu'elle n'a pas. En l'occurrence, l'autorisation de manger du fruit de l'arbre au milieu du jardin. Alors, un éducateur et pédagogue célèbre du siècle dernier, Fernand Deligny, avait écrit quelque chose d'assez intéressant. Il racontait l'histoire d'un groupe d'enfants qui jouait dans un grand champ qui s'étendait à perte de vue. Un jour, quelqu'un a mis une barrière autour du jardin. Le premier enfant qui la vit appela les autres qui, cessant leur jeu, vinrent regarder à travers les barreaux le reste d'un monde dont ils ne se souciaient guère la veille. Et depuis, le mystère et le plaisir passèrent, désormais inaccessibles de l'autre côté du jardin. Et il termine son récit en disant, autrement dit, évite les interdits, sous peine de voir ton troupeau s'y précipiter et franchir avec plaisir ces barrières nouvelles. Ce que nous désirons se trouve souvent à l'extérieur de nos vies, n'est-ce pas? Et nous voulons faire nôtre ce sur quoi porte notre désir. C'est ce que Jacques décrit lorsqu'il décortique ce qui mène au péché. Dans Jacques 1, les versets 14 et 15, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, consommé, produit la mort. Une dernière technique que nous verrons aujourd'hui, la promesse. Une promesse de nouveauté tout d'abord. Tu auras de nouvelles sensations. Tu connaîtras tout. Tu seras comme Dieu. Ta vie sera un long fleuve tranquille. Ces promesses nous sont faites aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Le beau, le stable, le sans effort, l'immortel presque. N'est-ce pas ce que le monde nous promet? Peut-être qu'aujourd'hui, bien plus que dans le temps, nous pourrions même être capables d'oublier notre visage, les filtres des applications, le maquillage. Nous pouvons faire disparaître toutes les imperfections. Je rencontre des jeunes qui parfois ne se supportent plus au naturel. Combien de jeunes filles ou femmes ne peuvent plus sortir sans artifice? Certains garçons ou hommes le font de plus en plus. On enlève les poils, on se fait des implants. Que sais-je encore? La promesse d'un monde aseptisé, où l'on cache au maximum ce qu'on sacrifie pour notre confort. Animaux, forêts, êtres humains, enfants, que sais-je. Nous voudrions vivre sans que cela coûte quoi que ce soit. Mais Jésus n'a-t-il pas dit qu'il fallait d'abord que le grain meure avant de donner plus de fruits? La mort est présente, c'est un principe naturel qui a suivi la chute après la tentation. Et j'ai l'impression que parfois nous voudrions oublier pour mieux vivre. Mais ce n'est pas désirable. Toutes ces promesses, tous ces besoins comblés en un rien de temps. Quelle promesse! Pourtant, l'Ecclésiaste nous dit que si on vous dit « tenez », voilà quelque chose de nouveau. En fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après nous n'en auront aucun souvenir. Nous n'avons pas deux besoins supplémentaires par rapport à nos ancêtres, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire. Le beau, la convoitise, l'interdit et la promesse. Trois choses qui peuvent nous faire tourner les regards. Alors bien sûr, ça peut être aussi le sale qui peut nous faire tourner les regards. Nous l'avons dit avant, du révoltant, du répugnant, qui pourtant nous attire. Il n'y a qu'à regarder certaines vidéos populaires sur les réseaux sociaux. La consternation peut être un levier pour capter notre attention, n'est-ce pas? Rien de plus engageant qu'un problème à résoudre, qu'une injustice à réparer, une cause à défendre. Mais le faisons-nous en accord avec Dieu? Maintenant, cette grosse parenthèse terminée, nous allons passer à la conclusion et revenir à nos deux premiers textes. Quel chrétien, quelle chrétienne veux-tu être aujourd'hui? Quel homme, quelle femme veux-tu devenir? Quels sont tes objectifs? La pluie tombera et le vent soufflera. Les épreuves nous touchent tous et il n'est pas question de lier des épreuves à un comportement, à un péché ou autre. La tempête, comme le soleil, touche indifféremment les êtres humains. Alors comment faire pour construire sa maison sur le roc? Déjà, n'oublions pas notre vrai visage. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Mais surtout, n'oublions pas qui est Dieu, un rocher puissant, le seul Dieu, un Père. Nous ne sommes jamais trop loin pour qu'il vienne nous chercher. Il ne sera jamais trop loin pour que nous ne puissions le voir. Restons attentifs, alertes, écoutons-le et appliquons ce qu'il nous commande. Dieu est miséricordieux, plein de grâce et de compassion. Nos actes ne feront pas de différence quant à notre salut, si notre foi est réelle, nous sommes d'accord. Mais ce sont des indicateurs importants de ce qu'il en est aujourd'hui, peut-être, dans ta vie. Dieu s'attend à nous voir vivre heureux, à nous voir vivre selon son plan. Il sait ce qui est bon pour nous. Ne l'oublions pas. Et si vous n'êtes pas encore chrétien ou chrétienne, si vous venez peut-être dans cette église pour la première fois, si vous n'avez pas encore entendu, cru, compris à quel Dieu nous appartenons, il n'est pas trop tard. Ces présentations de deux personnalités vous parlent aussi, j'en suis sûr. Dieu vous aime et il peut changer votre cœur, changer votre vie. Il ne nous promet pas une vie sans encombre, il parle de tempête, d'eau qui monte, mais il nous promet une vie heureuse parce qu'il est notre Créateur, qu'il nous connaît personnellement et qu'il nous aime. Alors j'espère que la prédication de ce matin vous aura permis d'apprendre à vous connaître, vous regardez dans le miroir. L'évangéliste Jean aussi nous dit que voilà, examine-toi toi-même. Ce n'est pas quelque chose que les autres peuvent faire pour nous, mais à la lumière de la Bible, nous pouvons nous connaître davantage et connaître davantage notre Créateur.